Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future, qui aura le droit de se présenter comme science. Suite et fin de la troisième partie. Conclusion. Sur la destination restreinte de la raison pure. Chapitre 57. Après les preuves parfaitement claires que nous avons données plus haut, il serait absurde d'espérer connaître d'un objet autre chose que ce qui tient à l'expérience dont il est susceptible, ou de prétendre à la moindre connaissance d'une chose quelconque dont nous savons qu'elle n'est pas un objet de l'expérience possible, à la détermination de cette chose par ses qualités intrinsèques, d'après ce qu'elle est en soi. Comment, en effet, vouloir exécuter cette détermination, puisque le temps, l'espace et toutes les notions intellectuelles, bien plus même, les notions obtenues par une intuition empirique ou une perception dans le monde sensible, n'ont et ne peuvent avoir d'autre usage que de rendre l'expérience possible. Et que si nous détachons, même des notions intellectuelles pures, cette condition, elles ne déterminent absolument aucun objet et sont sans aucune signification. Mais il y aurait encore plus d'absurdité à nier toute chose en soi, ou à vouloir donner notre expérience pour l'unique manière possible de connaître les choses. Par conséquent, notre intuition dans l'espace et le temps, pour la seule intuition possible, et notre entendement discursif pour le prototype de tout entendement possible. Et par conséquent, à vouloir faire passer des principes de la possibilité de l'expérience pour des conditions générales des choses en soi. Nos principes, qui ne limitent l'usage de la raison qu'à l'expérience possible, pourraient donc être eux-mêmes transcendants. Et les bornes de notre raison être données pour les bornes de la possibilité des choses en elles-mêmes. Comme les dialogues de David Hume en peuvent servir d'exemple. Si une critique vigilante ne veillait aux limites de notre raison jusque dans ses rapports à l'usage empirique et ne mettait un terme à ses prétentions. Le scepticisme est primitivement sorti de la métaphysique et de sa dialectique indisciplinée. Il a bien pu d'abord, en faveur de l'usage exclusif de la raison, donner pour vain et trompeur tout ce qui le dépasse. Mais, peu à peu, lorsqu'on se fut aperçu que ce sont cependant ces mêmes principes, a priori, dont on se sert dans l'expérience, qui, sans qu'on s'en doutât, et comme il le semble, conduisait avec le même droit plus loin que ne va l'expérience, on se prit à douter des principes mêmes de l'expérience. Point de danger en cela, car le bon sens reconnaîtra toujours bien ses droits. Mais il en est cependant résulté une confusion particulière dans la science, qui ne peut décider jusqu'où et pourquoi on ne peut s'en fier à la raison que dans cette mesure. Mais on ne peut remédier à cette confusion et en garantir le retour à l'avenir qu'en circonscrivant par des principes l'usage de notre raison. Nous ne pouvons à la vérité donner aucune notion déterminée en dehors de toute expérience possible de ce que peuvent être des choses en soi. Mais nous ne sommes cependant pas libres de nous abstenir de toute question à cet égard. L'expérience ne satisfait jamais entièrement la raison. Elle nous renvoie toujours plus loin dans la réponse aux questions et ne nous donne pas cette solution complète que chacun peut facilement concevoir par la dialectique de la raison pure, qui a par cela même un bon fondement subjectif. Qui peut tolérer que nous passions de la nature de notre âme à la claire conscience du sujet ? Ainsi qu'à la persuasion que ces phénomènes ne peuvent être expliqués par la matière, sans demander ce qu'est donc l'âme à proprement parler, et si aucune notion expérimentale ne suffit pour cela, sans admettre en tout cas pour cet objet une notion rationnelle d'un être matériel simple, quoique nous soyons dans l'impuissance absolue d'en prouver la réalité objective. qui peut se contenter de la simple connaissance expérimentale dans toutes les questions cosmologiques de la durée et de l'étendue de l'univers, de la liberté ou de la nécessité, puisque de quelque manière qu'il nous plaise de commencer, toujours une nouvelle question sur les lois de l'expérience succède à une réponse donnée. Question qui demande également une réponse et qui prouve clairement l'insuffisance de toute espèce d'explication physique pour contenter la raison. Enfin, qui ne voit dans la contingence et la dépendance perpétuelle de tout ce qu'il ne peut penser et admettre que d'après les principes de l'expérience, l'impossibilité de s'en tenir là, et ne se sent obligé, malgré toute défense de se perdre dans des idées transcendantes, de chercher cependant repos et satisfaction au-delà de toutes les notions qu'il peut justifier par l'expérience, dans la notion d'un être dont l'idée peut bien n'être pas aperçue quant à la possibilité intrinsèque, quoiqu'elle ne puisse être réfutée, parce qu'elle ne concerne qu'un être de raison, mais sans laquelle la raison ne peut jamais être satisfaite. Des limites dans un être étendu suppose toujours un espace qui se trouve en dehors d'un certain lieu déterminé et l'enveloppe. Des bornes n'ont besoin de rien de semblable. Ce sont de pures négations qui affectent une quantité en tant qu'elle n'a pas d'intégralité absolue. Mais notre raison veut en quelque sorte autour de soi une place pour la connaissance des choses en elle-même, bien qu'elle n'en puisse jamais avoir des notions déterminées et qu'elle soit réduite à des phénomènes. Tant que la connaissance de la raison est homogène, aucune limite déterminée ne lui est concevable. En mathématiques, en physique, la raison humaine reconnaît sans doute des bornes, mais elle n'admet pas de limite, en ce sens du moins, qu'il y ait en dehors d'elle quelque chose qu'elle ne puisse jamais atteindre. Mais non, en ce sens, qu'elle sera quelque part arrêtée dans son progrès intérieur. L'extension des connaissances en mathématiques et la possibilité de découvertes toujours nouvelles vont à l'infini. Même chose de la découverte de nouvelles propriétés physiques, de nouvelles forces et de nouvelles lois par l'expérience continuée et liée par la raison. Mais il faut cependant reconnaître ici des bornes, puisque les mathématiques ne se rapportent qu'à des phénomènes, et que ce qui ne saurait être un objet de l'intuition sensible, comme les notions de la métaphysique et de la morale, et qui est tout à fait en dehors de leur sphère, ne peut jamais les y conduire. Mais aussi ce n'est jamais un besoin pour elles. Il n'y a donc pas de progression continue, ni d'approximation vers ces sciences, et pour ainsi dire un point ou une ligne de contact. La physique ne nous fera jamais connaître l'intérieur des choses, c'est-à-dire ce qui n'est pas un phénomène, mais qui peut cependant servir de principe suprême d'explication des phénomènes. Elle n'a besoin de cela non plus pour ses explications physiques. Et même si un pareil moyen lui était offert d'ailleurs, par exemple l'influence d'êtres immatériels, elle devrait le refuser et ne point l'introduire dans le cours de ses explications, qu'elle ne doit jamais fonder que sur ce qui peut appartenir à l'expérience comme objet des sens et qui peut être enchaîné suivant des lois expérimentales avec nos perceptions réelles. Mais la métaphysique nous conduit, dans les tentatives dialectiques de la raison pure, qui ne sont pas entreprises arbitrairement ou témérairement, mais auxquelles porte la nature même de la raison, à des limites. Et les idées transcendantales, par le fait même qu'on ne peut s'y tenir, et que néanmoins elles ne peuvent jamais être réalisées, servent non seulement à nous montrer les limites de l'usage pur de la raison, mais aussi la manière de les déterminer. Tel est aussi le but et l'utilité de ces dispositions naturelles de notre raison, qui engendrent la métaphysique comme son enfant de prédilection. Cette procréation, comme tout autre dans le monde, n'est pas due au hasard, mais à un germe primitif, sagement organisé pour cette fin. Car la métaphysique est peut-être, plus que toute autre science, le fruit de la nature même en nous, dans ses traits essentiels, et ne peut être regardée comme le produit d'un choix arbitraire ou comme la suite contingente du progrès des expériences, dont elle se sépare entièrement. La raison, par toutes ses notions et par les lois de l'entendement, qui lui suffisent pour l'usage empirique, par conséquent, dans la sphère du monde sensible, n'y trouve cependant aucune satisfaction. Car par des questions qui se reproduisent toujours à l'infini, tout espoir d'y répondre parfaitement lui est ravi. Les idées transcendantales, qui ont pour objet cette perfection, sont des problèmes rationnels de cette espèce. Or on voit clairement que le monde sensible ne peut contenir cette intégration pas plus que toutes ces notions qui ne servent qu'à le concevoir, celles d'espace, de temps et de tout ce que nous avons indiqué sous le nom de notions intellectuelles pures. Le monde sensible n'est qu'un enchaînement de phénomènes liés, suivant des lois universelles. Il n'a donc pas d'existence en soi, et se rapporte par conséquent d'une manière nécessaire à ce qui contient le principe de ce phénomène, aux êtres, qui ne peuvent être connus comme phénomènes, mais comme choses en soi. Dans leur connaissance, la raison peut seulement espérer de voir son désir de l'intégralité dans le progrès du conditionné à ses conditions, une fois satisfait. Nous avons fait voir précédemment, chapitres 34 et 35, des bornes de la raison par rapport à toute connaissance de simples êtres de raison. Maintenant que les idées transcendantales nous ont rendu nécessaire le progrès jusque-là, et qu'elles ne nous ont pour ainsi dire conduit que jusqu'aux confins de l'espace plein de l'expérience, avec l'espace vide, dont nous ne pouvons rien savoir, les noumènes, nous pouvons déterminer aussi les limites de la raison pure, car dans toute limite est aussi quelque chose de positif. Par exemple, une surface est la limite de l'espace corporel, tout en étant un espace. Une ligne est un espace qui est la limite de la surface. Un point est la limite de la ligne, mais toujours cependant un lieu dans l'espace. Quand au contraire, de simples bornes ne contiennent que de pures négations. Les bornes indiquées dans les paragraphes cités ne suffisent pas. Après avoir trouvé qu'il y a encore en dehors d'elles quelque chose, quoique nous ne devions jamais connaître ce que c'est en soi. Car on se demande maintenant comment notre raison se comporte dans cette liaison de ce que nous connaissons avec ce que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais. Il y a ici une véritable liaison du connu à quelque chose de parfaitement inconnu, qui le sera toujours. Et si en cela, l'inconnu ne devait non plus être connu le moins du monde, comme on ne peut l'espérer en réalité, la notion de cette liaison doit cependant pouvoir être déterminée et élucidée. Nous devons donc concevoir un être immatériel, un monde intelligible, et un être au-dessus de tous les êtres, pur noumène, parce que la raison ne rencontre que là, comme en des choses en soi, l'intégration et la satisfaction qu'elle ne peut jamais espérer en dérivant les phénomènes de leurs principes homogènes, et parce que ces principes se rapportent réellement à quelque chose de différent d'eux, par conséquent tout à fait hétérogène, puisque des phénomènes supposent toujours une chose en soi et qui par conséquent est indiquée par là, qu'elle puisse ou non être connue plus intimement. Mais comme nous ne pouvons jamais connaître ces êtres de raison pour ce qu'ils peuvent être en soi, c'est-à-dire déterminément, quoique nous puissions les admettre par rapport au monde sensible, et qu'ils y doivent être rattachés par la raison, nous pourrons du moins concevoir cette liaison à l'aide de notions qui expriment leur rapport au monde sensible. Car si nous ne concevons l'être de raison que par des notions intellectuelles pures, nous ne pensons par là rien de réellement déterminé. Par conséquent, notre notion n'a pas de sens. Mais si nous le concevons par des propriétés qui soient prises du monde sensible, ce n'est plus un être de raison, il est pensé comme un des phénomènes et appartient au monde sensible. Prenons pour exemple la notion de l'être suprême. La notion constitutive du déisme est une notion toute rationnelle, mais qui ne représente qu'une chose, celle qui contient toute réalité, sans pouvoir en déterminer une seule, parce qu'il faudrait pour cela prendre un exemple du monde sensible, auquel cas je n'aurais jamais affaire qu'à un objet des sens, mais point à quelque chose d'entièrement hétérogène qui ne peut en aucune façon être un objet des sens. Lui attribuerais-je, par exemple, l'entendement. Mais je n'ai d'autre notion d'un entendement que de celui qui ressemble au mien, c'est-à-dire auquel des sens doivent fournir des intuitions, et qui s'applique ainsi à les soumettre aux règles de l'unité de conscience. Mais alors les éléments de ma notion seraient toujours dans le phénomène. Je serais ainsi forcé, par l'insuffisance des phénomènes, de m'élever plus haut, de m'adresser à la notion d'un être qui est indépendant des phénomènes ou qui s'y trouve mêlé comme à des conditions de sa détermination. Mais si je sépare l'entendement de la sensibilité pour avoir un entendement pur, il ne reste plus que la simple forme de la pensée sans aucune intuition, forme qui ne peut me servir à connaître quoi que ce soit de déterminé, par conséquent aucun objet. Il faudrait à cette fin concevoir un autre entendement qui perçut des objets dont je n'ai pas la moindre notion, parce que l'entendement humain est discursif et ne peut connaître que par des notions universelles. Même résultat, si j'attribue à l'être suprême une volonté, car je n'ai cette notion qu'à la condition de la tirer de mon expérience interne, qui a pour base ma dépendance quant à la satisfaction où je puis être des objets dont l'existence est pour nous un besoin, par conséquent une sensibilité, ce qui répugne tout à fait à la notion pure de l'être suprême. Les objections de Hume contre le déisme sont faibles. Elles n'atteignent jamais que les arguments, et point du tout la proposition affirmative du déisme. Mais par rapport au théisme, qui doit être établi par une détermination plus précise de notre notion, purement transcendante ici, de l'être suprême, elles sont très fortes, et même irréfutable, dans certains cas. En fait, dans tous les cas ordinaires, suivant qu'on forme cette notion. Hume s'attache toujours à ce que par la simple notion d'un être premier, auquel nous n'attribuons que des prédicats ontologiques, éternité, toute présence, toute puissance, nous ne pouvons réellement rien concevoir de déterminé, mais qu'il faut ajouter des propriétés qui peuvent donner la notion in concreto. Il ne suffit pas de dire qu'il est une cause, il faut ajouter son mode de causalité. Si c'est par entendement et par volonté. Et alors commencent les attaques contre la chose même, contre le théisme, quand auparavant l'auteur n'avait renversé que les arguments du déisme, ce qui n'était pas bien périlleux. Ces arguments dangereux se rapportent tous à l'anthropomorphisme qui tient pour inséparable du théisme et qu'il met en contradiction avec lui-même. Mais si on l'abandonne, c'en est fait aussi du théisme. Il ne reste plus qu'un déisme, dont on ne peut rien faire, qui nous est inutile et qui ne peut servir de fondement à la religion ni à la morale. Si cette nécessité de l'anthropomorphisme était certaine, en vain, les preuves de l'existence d'un être suprême, quelles qu'elles puissent être, seraient accordées. La notion de cet être ne pourrait cependant jamais être déterminée par nous, sans tomber dans une contradiction. Si, à la défense d'éviter tous les jugements transcendants de la raison pure, nous joignons le précepte en apparence contraire de s'élever jusqu'aux notions qui sont en dehors du champ de l'usage immanent, empirique, nous comprendrons que les deux choses sont compatibles, mais sur les limites de tout usage permis de la raison, car ces limites appartiennent aussi bien au champ de l'expérience qu'à celui des êtres de raison, et nous apprendrons en même temps par là comment ces idées si remarquables ne servent qu'à la délimitation de la raison humaine, c'est-à-dire d'une part à étendre, dans une certaine mesure, la connaissance expérimentale, au point que nous n'ayons rien à connaître que le monde, d'autre part cependant, à franchir les limites de l'expérience et à vouloir juger des choses qu'elle ne contient pas, comme chose en soi. Mais nous restons sur ces limites si nous restreignons notre jugement au seul rapport que peut avoir le monde à un être dont la notion même est en dehors de toute connaissance dont nous sommes capables dans le monde. Car alors, nous n'attribuons à l'être suprême aucune des propriétés en soi par lesquelles nous concevons des objets de l'expérience et nous évitons par là l'anthropomorphisme dogmatique. Mais nous les attribuons, cependant, à son rapport avec le monde, et nous nous permettons un anthropomorphisme symbolique qui n'est en fait que dans le langage et non dans l'objet. Quand je dis que nous sommes forcés de considérer le monde comme s'il était l'œuvre d'une intelligence et d'une volonté suprême, je ne dis en réalité qu'une chose. C'est ce que le rapport qui existe entre une horloge, un navire, un régiment et un horloger, un constructeur, un colonel, est le même qui existe entre le monde sensible, ou tout ce qui compose le fondement de cet ensemble de phénomènes, et l'inconnu, que je ne connais, par conséquent pas en lui-même, mais que je connais cependant par rapport à moi, par rapport au monde dont je fais partie. Chapitre 58. Cette connaissance est la connaissance par analogie, qui ne signifie pas, comme le mot l'indique ordinairement, une parfaite ressemblance de deux choses, mais une parfaite ressemblance de deux rapports entre choses entièrement dissemblables. Note. Ainsi, il y a une analogie entre le rapport juridique des actions humaines et le rapport mécanique des forces motrices. Je ne puis rien faire à autrui sans lui donner le droit de m'en faire autant, sous les mêmes conditions. De même qu'un corps ne peut agir avec ses forces motrices sur un autre, sans faire par là que l'autre corps réagisse sur lui dans la même mesure, je puis donc, à l'aide de cette analogie, donner une notion relative de choses qui me sont absolument inconnues. Ainsi, par exemple, le soin du bonheur des enfants égale A, est à l'amour des parents égale B, de même que le soin du genre humain égale C, est à l'inconnu en Dieu égale X, que nous appelons amour. ce qui ne veut pas dire qu'il y ait ici la moindre ressemblance avec une inclination humaine. Mais nous pouvons seulement en comparer le rapport au monde à celui que les choses du monde ont entre elles. La notion de rapport n'est ici qu'une simple catégorie, à savoir la notion de cause, qui n'a rien à démêler avec la sensibilité. Fin de la note, reprise du texte. Cette connaissance est la connaissance par analogie, qui ne signifie pas, comme le mot l'indique ordinairement, une parfaite ressemblance de deux choses, mais une parfaite ressemblance de deux rapports entre choses entièrement dissemblables. Grâce à cette analogie, une notion de l'être suprême est cependant déterminée pour nous d'une manière suffisante, quoique nous ayons abandonné tout ce qui pouvait la déterminer absolument et en soi. Car nous pouvons cependant la déterminer par rapport au monde, et par conséquent, par rapport à nous. Une détermination ultérieure ne nous est pas nécessaire. Les attaques dirigées par Hume contre ceux qui veulent absolument déterminer cette notion en empruntant à cet effet des matériaux d'eux-mêmes et du monde ne nous regardent pas. Aussi ne peut-il nous objecter qu'il ne nous reste rien si nous retranchons de la notion de l'être suprême l'anthropomorphisme objectif. En effet, si, pour commencer seulement, comme le fait aussi Hume en ses dialogues dans la personne de Philon contre Cléante, on nous accorde une hypothèse nécessaire, la notion constitutive du déisme, celle d'un être primitif, dans laquelle on conçoit cet être par de purs prédicats ontologiques, ceux de substance, de cause, etc. Ce qu'on doit faire, parce que la raison poussée dans le monde sensible par de simples conditions, qui sont toujours conditionnées à leur tour, sans quoi elle ne peut avoir aucune satisfaction, et ce qui peut se faire commodément aussi, sans tomber dans l'anthropomorphisme, qui transporte des prédicats tirés du monde sensible à un être tout différent du monde. Puisque ces prédicats ne sont que de simples catégories qui n'en donnent aucune notion déterminée, mais non plus, par la même raison, aucune notion restreinte aux conditions de la sensibilité. Rien alors ne peut s'opposer à ce que nous attribuions à cet être une causalité par raison à l'égard du monde, et à ce que nous nous élevions ainsi au théisme, sans être obligés de lui attribuer cette raison en lui-même, comme une propriété qui lui serait inhérente. Car en ce qui regarde le premier point, c'est l'unique voie possible pour porter au plus haut degré l'usage de la raison par rapport à toute expérience possible, universellement d'accord avec elle-même dans le monde sensible, tout en admettant même de nouveau une raison suprême comme une cause de toutes les liaisons dans le monde. Un tel principe doit toujours lui être avantageux, sans jamais pouvoir lui nuire dans son usage physique. Quant au second point, la raison n'est cependant point transportée par là comme qualité à l'être primitif en soi, mais seulement à son rapport au monde sensible. Et de cette manière, se trouve entièrement évité l'anthropomorphisme. Car il ne s'agit ici que de la cause de la forme rationnelle qui se rencontre partout dans le monde. Et si la raison est attribuée à l'être suprême, en tant qu'il contient le principe de cette forme rationnelle du monde, ce n'est que par analogie, c'est-à-dire en tant que cette expression montre seulement le rapport de la cause suprême à nous inconnus avec le monde, pour y déterminer raisonnablement toute chose au plus haut degré. De cette manière donc, on évite de se servir de la propriété de la raison pour concevoir Dieu. On ne s'en sert que pour concevoir le monde, comme il le faut bien, si l'on veut avoir le plus grand usage possible de la raison par rapport au monde, suivant un principe. Nous avouons donc que l'être suprême, considéré en lui-même, nous est tout à fait impénétrable et inconnaissable même d'une manière déterminée, ce qui nous empêche, d'après les notions que nous avons de la raison comme cause efficiente, à l'aide de la volonté, d'en faire aucun usage transcendant pour déterminer la nature divine par des propriétés qui, cependant, sont toujours prises de la nature humaine et de nous perdre dans de grossières et mystiques notions. Par là, nous évitons aussi de noyer la contemplation du monde d'après des notions de la raison humaine transportées à Dieu dans des explications hyperphysiques, de détourner cette contemplation de sa fin propre, suivant laquelle elle doit être une étude de la simple nature par la raison et non une dérivation téméraire des phénomènes physiques d'une raison suprême. L'expression qui convient à nos faibles notions sera donc que nous concevons le monde comme s'il dérivait, quant à son existence et à ses déterminations internes, d'une raison suprême. Ce qui nous permet, d'une part, de connaître la propriété qui revient au monde même, sans toutefois prétendre déterminer sa cause en elle-même. D'autre part, de placer dans le rapport de la cause suprême au monde le principe de cette propriété, de la forme rationnelle dans le monde, sans trouver que le monde y suffise par lui-même. Note. Je dirais, la causalité de la cause suprême est, par rapport au monde, ce que la raison humaine est par rapport à son œuvre. En quoi la nature de la chose suprême même me reste inconnue. Je ne compare que son action à moi connue. L'ordre du monde. Et sa régularité avec les effets à moi connus de la raison humaine, et j'appelle en conséquence la première une raison, sans pour cela entendre par là ce que j'entends dans l'homme par cette expression, ou sans lui attribuer comme propriété quelque chose qui me soit connu d'ailleurs. Fin de la note, reprise du texte. Ainsi disparaissent les difficultés qui semblaient s'opposer au théisme par le fait que l'on associe au principe de Hume de ne pas transporter l'usage de la raison hors du champ de toute expérience possible un autre principe entièrement omis par ce philosophe, celui de ne pas considérer le champ de l'expérience possible comme quelque chose qui se limite soi-même aux yeux de notre raison. La critique de la raison indique ici la voie moyenne entre le dogmatisme que Hume attaquait et le scepticisme qu'il voulait introduire. Moyen terme qui diffère d'autres justes milieux que l'on conseille de déterminer, pour ainsi dire, mécaniquement, un peu de l'un, un peu de l'autre, et par lesquels nul ne connaît le mieux, mais qui peuvent servir à le déterminer suffisamment d'après des principes. Chapitre 59. Je me suis servi au commencement de cette observation de l'image d'une limite pour établir les barrières de la raison par rapport à son usage légitime. Le monde sensible ne contient que des phénomènes qui ne sont pas des choses en soi. Celles-ci, noumènes, doivent être admises par l'entendement, par la raison, précisément qu'il reconnaît les objets de l'expérience pour de simples phénomènes. Notre raison embrasse les deux choses, et l'on se demande de quelle manière elle procède pour limiter l'entendement par rapport aux deux circonscriptions. L'expérience, qui contient tout ce qui appartient au monde sensible, ne se limite pas elle-même. Elle passe d'un conditionné à un autre. Ce qui doit la limiter doit être entièrement hors d'elle, et c'est le champ des êtres de pure raison. Mais c'est pour nous un espace vide, en tant qu'il se rapporte à la détermination de la nature de ces êtres de raison, et en ce sens, nous ne pouvons pas sortir du champ de l'expérience possible s'il s'agit de notions dogmatiquement déterminées. Mais comme une limite même est quelque chose de positif, qui ne tient pas moins à ce qu'elle renferme qu'à l'espace qui est en dehors de l'ensemble donné, c'est donc une vraie connaissance positive à laquelle la raison participe par le fait seul qu'elle s'étend jusqu'à cette limite, de telle sorte cependant qu'elle ne cherche pas à la franchir, parce qu'elle n'aurait devant elle qu'un espace vide, où elle peut bien concevoir des formes pour les choses, mais pas de choses en soi. Mais la limitation du champ de l'expérience par quelque chose qui lui est d'ailleurs inconnu est cependant une connaissance qui reste encore à la raison, à ce point de vue, parce qu'elle n'est pas renfermée à l'intérieur du monde sensible, et qu'elle n'extravague pas non plus en dehors, mais que, ainsi qu'il convient à une connaissance de limite, elle se borne au rapport de ce qui les dépasse à ce qu'elle renferme. La théologie naturelle est une notion de cette espèce, qui se rapporte aux limites de la raison humaine, puisqu'elle se voit obligée de s'élever à l'idée d'un être suprême, et, au point de vue pratique, à l'idée d'un monde intelligible. Non pas pour déterminer quelque chose par rapport à ce pur être de raison, par conséquent en dehors du monde sensible, mais seulement pour donner, suivant des principes, la plus grande unité possible, théoriquement et pratiquement, à son propre usage dans ce monde même, et se servir à cet effet du rapport de cette unité à une raison indépendante comme cause de toutes les liaisons, sans toutefois s'imaginer simplement par là un être, mais, puisqu'en dehors du monde sensible doit nécessairement se trouver quelque chose que l'entendement pur doit seulement concevoir, pour le déterminer uniquement de cette manière, quoique par simple analogie. Ainsi subsiste notre proposition précédente, qui résume toute la critique, que la raison, avec tous ses principes a priori, ne nous apprend jamais rien de plus que les simples objets de l'expérience possible, et de ces objets, rien de plus encore que ce qui peut être connu dans l'expérience. Mais cette limitation ne l'empêche pas de nous conduire jusqu'aux limites objectives de l'expérience, à savoir le rapport à quelque chose qui ne doit pas être l'objet même de l'expérience, mais qui doit être cependant le principe suprême de toute expérience, sans toutefois rien nous apprendre de ce principe en soi, mais seulement par rapport à son propre et parfait usage en vue des fins suprêmes dans le champ de l'expérience possible. Telle est aussi toute l'utilité qu'on peut raisonnablement désirer et dont il faut savoir se contenter. Chapitre 60. Nous avons donc exposé longuement, quant à sa possibilité, la métaphysique telle qu'elle est donnée réellement, dans les dispositions innées de la raison humaine, et même dans ce qui constitue le but essentiel de ses travaux. Cependant, comme nous avons trouvé que l'usage purement physique de ces dispositions de notre raison, si elle manque d'une discipline, qui n'est possible que par une critique scientifique, pour la retenir et la fixer dans ses limites, l'enlace dans des raisonnements dialectiques transcendants qui, ou n'ont en leur faveur que l'apparence, ou se contredisent même, et qu'en outre, cette métaphysique subtile est inutile aux sciences physiques, ou leur est même préjudiciable. Il reste toujours une question digne de nos efforts, celle de trouver les fins naturelles auxquelles tendent, dans notre raison, ces dispositions aux notions transcendantes, puisque tout ce qui est dans la nature doit se rattacher originairement à quelque but d'utilité. Cette recherche est en fait périlleuse, et j'avoue qu'il n'y a que conjecture dans ce que je puis dire de la manière dont toute chose se rapporte aux fins premières de la nature. Qu'il me soit cependant permis de m'y livrer dans cette seule circonstance, puisque la question ne concerne pas la valeur objective des jugements métaphysiques, mais des dispositions naturelles relatives à ces jugements et se trouve ainsi placé dans l'anthropologie, en dehors du système de la métaphysique. Si je considère toutes les idées transcendantales dont l'ensemble constitue le problème propre de la raison naturelle pure, problème qui la force à quitter la simple contemplation de la nature, à s'élever au-dessus de toute expérience possible, et à réaliser par cet effort la chose, savoir ou sophisme, qui porte le nom de métaphysique, je crois alors m'apercevoir que cette disposition naturelle tend à dégager notre conception des chaînes de l'expérience et à lui faire franchir les barrières de la simple physique, au point de voir au moins, ouvert devant elle, un champ qui ne contient que des objets d'entendement pur, qu'aucune sensibilité ne peut atteindre, non pas, il est vrai, pour que nous nous en occupions spéculativement, parce que nous ne trouvons pas de fond où nous puissions poser le pied, mais pour que des principes pratiques, qui, sans la rencontre de cette carrière à leur développement nécessaire et leurs aspirations, ne pourraient pas s'étendre à l'universalité dont la raison ne peut se passer au point de vue moral, est leur empire sur nous. Je trouve donc que l'idée psychologique, entendant par là la nature pure, et au-dessus de toutes les notions expérimentales de l'âme humaine, si peu déterminée qu'elle soit, montre assez clairement du moins l'insuffisance de ces notions, et me détourne par là du matérialisme, comme d'une notion physiologique qui ne peut convenir à aucune explication naturelle, et qui tient en outre la raison trop à l'étroit, au point de vue pratique. De même les idées cosmologiques, par l'insuffisance manifeste de toute connaissance naturelle possible à satisfaire la raison dans sa légitime curiosité, nous préserve du naturalisme qui prétend que la nature se suffit à elle-même. Enfin, comme toute nécessité physique dans le monde sensible est toujours conditionnée, puisqu'elle suppose toujours une dépendance des choses à l'égard d'autres choses, et que la nécessité inconditionnée ne doit être cherchée que dans l'unité d'une cause différente du monde sensible, et que sa causalité, si elle était purement physique, ne pourrait jamais faire concevoir l'existence du contingent, comme en étant l'effet, la raison, grâce à l'idée théologique, s'affranchit du fatalisme, aussi bien que d'une aveugle nécessité physique dans l'enchaînement de la nature même, sans un premier principe, comme aussi dans la causalité de ce principe même, est conduite à la notion d'une cause par liberté, par conséquent, d'une intelligence suprême. Ainsi, les idées transcendantales, sans nous instruire positivement, ont cependant cette utilité de mettre un terme aux assertions audacieuses et restrictives du champ de la raison, qui constitue le matérialisme, le naturalisme et le fatalisme, et de donner ainsi carrière aux idées morales en dehors du champ de la spéculation, ce qui expliquerait jusqu'à un certain point, si je ne me trompe, ces dispositions naturelles. L'utilité pratique que peut avoir une science purement spéculative étant en dehors des limites de cette science peut donc être regardée simplement comme un scoli, et comme tous les scolis, ne constitue pas une partie de la science même. Cependant, ce rapport est au moins en deçà des limites de la philosophie, de celle-là surtout qui se tire des sources rationnelles pures, où l'usage spéculatif de la raison en métaphysique doit nécessairement former unité avec l'usage pratique moral. La dialectique inévitable de la raison pure, considérée en métaphysique comme une disposition naturelle, doit être expliquée autant que possible, non simplement comme une apparence qui doit être dissipée, mais aussi comme une institution de la nature par rapport à sa fin, quoique cette tâche, comme surérogatoire, ne soit pas exigé, et avec raison, pour la métaphysique proprement dite. Quant à un second scoli, mais plus voisin de la matière et de la métaphysique, il faudrait s'en tenir à la solution des questions qui s'étendent dans la critique, tome 2, page 260-279. Car c'est là que se trouvent exposés certains principes rationnels qui déterminent a priori l'ordre physique, ou plutôt l'entendement, qui doit en chercher les lois. Il semble être constitutif et législatif par rapport à l'expérience, quand cependant il procède de la simple raison, qui, à la différence de l'entendement, ne doit pas être considérée comme un principe de l'expérience possible. Ceux qui voudront examiner la nature de la raison, en dehors même de son usage en métaphysique, et jusque dans les principes universels propres à constituer systématiquement une histoire naturelle en général, auront à voir si cet accord dépend de ce que, tout comme la nature ne tient pas, par elle-même, aux phénomènes ou à leur source, la sensibilité, mais ne se trouve que dans le rapport de la sensibilité à l'entendement, de même, l'unité constante de l'usage de l'entendement en faveur de toute une expérience possible en un système ne peut convenir à cet entendement que par rapport à la raison, et qu'ainsi l'expérience est immédiatement soumise à la législation de la raison. Car j'ai bien présenté cette question dans le livre même comme importante, mais je n'en ai pas cherché la solution. Note. Ma résolution constante a toujours été de ne rien négliger dans la critique de ce qui pourrait conduire à sa perfection. La recherche de la nature de la raison pure, si profondément cachée qu'elle puisse être. Libre à chacun de poursuivre, aussi loin qu'il le voudra, son investigation, quand on aura seulement fait voir ce qui reste encore à faire. Car c'est ce qu'on peut faire, justement, attendre de celui qui s'est donné pour tâche de mesurer tout ce champ, afin que d'autres puissent se le partager et le cultiver. C'est également l'objet des deux scolies qui se recommanderaient difficilement aux amateurs à cause de leur aridité, et qui ne sont par conséquent proposés qu'aux connaisseurs. Fin de la note, reprise du texte. Je termine donc ainsi la solution analytique de la question principale que j'avais posée. Comment la métaphysique en général est-elle possible? Puisque je me suis élevé des choses où son usage est réellement donné, au moins dans les conséquences, au principe de sa possibilité.